Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
Samuel Beckett, son propre traducteur souvent, son propre interprète donc, muet. Deux langues, plasticité des termes, tropisme, déhanchement des syntaxes. Du plus profond silence et de la nuit surgit alors la voix de l'interprète, Jack McGovern, David Warrilow. Pic des accents, tension des phonèmes. Diffusée la première fois en 1990, cette opération de chimie linguistique a été rediffusée en mars 1998 dans une version raccourcie de 2h à 1h30. C'est cette version que nous avons choisie ici, extrait d'œuvres en français, en anglais, et deux intégrales, la dernière bande et le dépeupleur, avec le concours de Ludovic Janvier. Une émission de René Farabet.
ACR, Atelier de création radiophonique. Samuel Beckett, Deux langues pour des voix. Par René Farabet. From the beginning to the end. Extrait. Avec Jack McGowan. Mise en scène Samuel Beckett, 1970. Avec Claude Piéplu. Crab's Last Tape, la dernière bande, avec Rick Lequet, Michael Lonsdale, 1981. Le Dépeupleur, avec David Warrilow, 1981. Groupe de réalisation, Philippe Bredin, Michel Créis, Annie Delers, Olivier Dupré, Bernard Laniel, Viviane van der Broek. Samuel Beckett, Deux langues pour des voix.
Jack McGowan.
The end is in the beginning. And yet you go on.
La fin est dans le commencement. Et cependant, on continue.
The stride of a grave in a difficult birth. Down in the hole, lingeringly, a grave digger puts on the forceps.
À cheval sur une tombe et une naissance difficile. Du fond du trou, rêveusement, le fossoyeur applique ses fers. On a le temps de vieillir. L'air est plein de nos cris. Mais l'habitude est une grande sourdine. Moi aussi, un autre me regarde en se disant « Il dort, il ne sait pas. » Qu'il dorme.
Vladimir, en attendant Godot. Crap, la dernière bande.
Lie propped up in the dark and wander. Be again in the dingle on a Christmas Eve, gathering holly, the red berried. Be again on Crokin. On a Sunday morning, in the haze with the bitch, stop and listen to the bells, and so on. Be again, that old misery. Once wasn't enough for you! Lie down across her.
Samuel Beckett, Crabb's Last Tape, La Dernière Bande, avec Rick Clocher.
Un soir, tard, d'ici quelque temps, la turne de Crabb. Au centre, une petite table dont les deux tiroirs s'ouvrent du côté de la salle. Assis à la table, face à la salle, c'est-à-dire du côté opposé au tiroir, un vieil homme avachi, Crabb. Pantalon étroit, trop court, d'un noir pisseux. Gilet sans manches, d'un noir pisseux. Quatre vastes poches. Lourde montre d'argent avec chaîne. Chemise blanche crasseuse, déboutonnée au cou, sans col. Surprenante paire de bottines d'un blanc sale, du 48 au moins, très étroite et pointue. Visage blanc, nez violacé, cheveux gris en désordre, mal rasé. Très myope, mais sans lunettes. Dur d'oreille. Démarche laborieuse. Sur la table, un magnétophone avec microphone. Et de nombreuses boîtes en carton contenant des bobines de bande impressionnées. Crabb demeure un moment immobile, pousse un grand soupir, regarde sa montre, farfouille dans ses poches, en sort une enveloppe, la remet, farfouille de nouveau, sort un petit trousseau de clés, l'élève à hauteur des yeux, choisit une clé, se lève et va vers le devant de la table. Il se baisse, fait jouer la serrure du premier tiroir, regarde dedans, y promène la main, en sort une bobine, l'examine de tout près, la remet, referme le tiroir à clé, fait jouer la serrure du second tiroir, regarde dedans, y promène la main, en sort une grosse banane, l'examine de tout près, referme le tiroir à clé, remet les clés dans sa poche. Il se retourne, s'avance jusqu'au bord de la Seine, s'arrête, caresse la banane, l'épluche, laisse tomber la peau à ses pieds, met le bout de la banane dans sa bouche et demeure immobile, regardant dans le vide devant lui. Finalement, il croque le bout de la banane, se détourne et se met à aller et venir au bord de la Seine, c'est-à-dire à raison de 4 ou 5 pas au plus de chaque côté, tout en mastiquant méditativement la banane. Il marche sur la peau de la banane, glisse, manque de tomber, se rattrape, se penche, regarde la peau, et finalement la pousse du pied, toujours penchée par-dessus le bord de la Seine dans la fosse. Il reprend son va-et-vient, finit de manger la banane, retourne à la table, s'assoit, demeure immobile, pousse un grand soupir, sort les clés de sa poche, les élève à hauteur des yeux, choisit une clé, se lève et va vers le devant de la table, fait jouer la serrure du second tiroir, en sort une seconde grosse banane, l'examine de tout près, referme le tiroir à clé, remet les clés dans sa poche, se retourne, s'avance jusqu'au bord de la Seine, s'arrête, caresse la banane, l'épluche, flanque la peau dans la fosse, met le bout de la banane dans sa bouche et demeure immobile, regardant dans le vide devant lui. Finalement, il a une idée. Met la banane dans une poche de son gilet, d'où le bout émergera, et de toute la vitesse dont il est capable, s'en va au fond de la Seine. Il revient portant un vieux registre. Il s'assoit à la table, il pose le registre sur la table, s'essuie la bouche, s'essuie les mains à son gilet, les frotte. Il se penche sur le registre, tourne les pages.
Boîte 3, bobine 5.
Il lève la tête, regarde fixement devant lui.
Bobine 3,
4,
2, 9. Nom de Dieu. 7. Ah, petite coquille.
Box 3.
Boîte 3.
Spool.
Bobine. 5.
Little scoundrel.
Petite fripouille.
Box 3.
Boîte 3.
Spool.
Bobine 5. Bobine.
Il se penche, place la bobine sur l'appareil. Il se penche sur le registre et lit l'inscription en bas de page.
Mother at rest at last.
Maman en paix enfin.
The black ball.
La balle noire.
Black ball.
Balle noire.
The dark nurse.
La boniche brune.
Slight improvement in bowel condition.
Légère amélioration de l'état intestinal.
Memorable what?
Mémorable.
Equinox.
Quoi? Equinox.
Memorable equinox.
Mémorable équinoxe.
Farewell to.
Adieu à la.
Love.
Amour.
Il lève la tête, rêvasse. Se penche sur l'appareil, le branche. Et prend une posture d'écoute. C'est-à-dire le buste incliné en avant, les coudes sur la table, la main encore nez dans la direction de l'appareil, le visage face à la salle.
Today.
39 ans aujourd'hui.
Sound as a.
En voulant s'installer plus confortablement, il fait tomber une des boîtes, débranche l'appareil, balaye violemment boîte et registre par terre. Il ramène la bande au point de départ, rebranche l'appareil, reprend sa posture.
Today.
39 ans aujourd'hui.
Sound as a bell.
Solide comme un pont.
Apart from my old weakness,
à part mon vieux point faible.
Intellectually,
et intellectuellement,
I have now every reason to suspect,
j'ai maintenant tout lieu de le soupçonner
crest of the wave,
à la crête de la vague, ou peu s'en faut.
Celebrated the awful occasion,
célébré la solennelle occasion, comme toutes ces dernières années, tranquillement à la taverne.
Not a soul.
Personne.
Sat before the fire,
resté assis devant le feu,
eyes,
les yeux fermés,
separating the
a séparé le grain de la balle.
From the husks. Jotted down a few notes.
Jeté quelques notes sur le dos d'une enveloppe.
Good to be back in my den,
heureux d'être de retour dans ma turne, dans mes vieilles nippes.
I've just eaten, I regret to say,
viens de manger, je regrette de le dire, trois bananes.
And only with difficulty,
et ne me suis abstenu d'une quatrième qu'avec peine.
Fatal things for a man with my condition.
Du poison pour un homme dans mon état.
Cut him out.
À éliminer.
The new light above my table,
le nouvel éclairage au-dessus de ma table est une grande amélioration. Avec toute cette obscurité autour de moi, je me sens moins seul, en un sens. J'aime à me lever pour y aller, faire un tour, puis revenir ici à moi, crap. Le grain, voyons, je me demande ce que j'entends par là. J'entends... Je suppose que j'entends ces choses qui en vaudront encore la peine quand toute la poussière sera, quand toute ma poussière sera retombée. Je ferme les yeux et je m'efforce de les imaginer. Extraordinaire silence ce soir. Je tends l'oreille et n'entends pas un souffle.
Old Miss McGlome,
la vieille Miss McGlome
at this
chante
hour,
toujours à cette heure-ci,
tonight.
Mais pas ce soir.
Songs of her girlhood, she
les chansons du temps où elle était jeune fille, dit-elle.
Hard to think of her as a girl.
Difficile de l'imaginer jeune fille.
Wonderful woman, though.
Merveilleuse vieille, cependant.
Carey, I fancy.
Du Codot, j'ai l'impression.
Shall I sing when I am her age?
Est-ce que je chanterai quand j'aurai son âge, si jamais j'ai son âge?
No.
Non.
Did I sing as a boy?
Est-ce que je chantais quand j'étais jeune garçon?
No.
Non.
Did I ever sing? No.
Est-ce que j'ai jamais chanté? Non.
Viens juste écouter une vieille année, des passages au hasard. Je n'ai pas vérifié dans les livres, mais ça doit nous ramener à 10 ou 12 ans en arrière, au moins. Je crois qu'à ce moment-là, je vivais encore avec Bianca dans Kedar Street. Enfin, par un coup. Bien sorti de ça. Ah, foutre, oui. C'était sans espoir. Pas grand-chose sur elle, à part un hommage à ses yeux enthousiastes. Je les ai revus tout à coup. Incomparable. Enfin. Sinistres, ces exhumations. Mais je les trouve souvent... utile avant de me lancer dans un nouveau retour en arrière. Difficile de croire que j'ai jamais été ce petit crétin. Cette voix, Jésus. Et ses aspirations. Et ses résolutions. Boire moins, notamment. Des statistiques. 1700 heures sur les 8000 et quelques précédentes volatilisées, rien que dans les débits de boissons, plus de 20%, disons 40% de sa vie de veille, plan pour une vie sexuelle moins absorbante, dernière maladie de son père, poursuite toujours plus languissante du bonheur, fiasco des laxatifs, ricanement sur ce qu'il appelle sa jeunesse et action de grâce qu'elle soit finie. Fausse note là. Ombre de l'opus magnum. Et pour finir, un... jappement à l'adresse de la Providence. Que reste-t-il de toute cette misère? Une fille dans un vieux manteau vert sur un quai de gare? Non? Quand je regarde...
Crap, débranche l'appareil, rêvasse. Il regarde sa montre, se lève. Et s'en va au fond de la Seine. Bruit d'une bouteille contre un verre. Il revient, s'assoit, s'essuie la bouche, rebranche l'appareil, reprend sa posture d'écoute.
En arrière, vers l'année écoulée, avec, peut-être, je l'espère, quelque chose de mon vieux regard à venir. Il y a naturellement la maison du canal où maman s'éteignait dans l'automne finissant après une longue viduité et le...
dying.
s'éteignait dans l'automne finissant après une longue viduité et le...
Crap débranche l'appareil, lève la tête, regarde dans le vide devant lui. Ses lèvres remuent sans bruit en formant les syllabes de viduité. Il se lève, s'en va au fond de la Seine. Il revient avec un énorme dictionnaire, s'assoit, le pose sur la table et cherche le mot.
Vicieux. Viduité.
State or condition.
État ou condition.
Of being or remaining.
De qui est ou demeure.
Widow or widower.
Veuf ou veuve.
Being or remaining.
Qui est ou demeure.
Deep weeds of viduity.
Les voiles épais du veuvage.
Also of an animal,
se dit aussi d'un animal, particulièrement d'un oiseau.
Or weaver bird.
L'oiseau veuve ou tisserin.
Black plumage of male.
Plumage noir des mâles.
A vidua bird.
L'oiseau veuve.
Bench by the weir, from where banc I could
près du
bief,
d'où je pouvais voir sa vitre.
There I sat in the biting
je restais là, assis dans le vent cinglant, souhaitant qu'elle en finisse.
Hardly a soul.
Presque personne.
Just a few regulars,
quelques habitués seulement,
infants,
des boniches, des enfants, des vieillards, des chiens.
I got to know them quite well.
J'ai fini par bien les connaître.
By appearance, of course,
je veux dire, de vue, bien sûr.
One dark young beauty
je me rappelle surtout une jeune beauté brune, toute blancheur et à mi-ton. Une poitrine incomparable qui poussait un grand landau à capote noire d'un funèbre. Chaque fois que je regardais dans cette direction, elle avait les yeux sur moi. Et pourtant, quand j'ai eu la hardiesse de lui adresser la parole, sans avoir été présenté, elle a menacé d'appeler un agent.
As if I had designs on her virtue.
Comme si j'en voulais à sa vertu.
The face she had.
Le visage qu'elle avait.
The eyes.
Les yeux.
Like
comme des
chrysolite.
Chrysolites.
Ah, well.
Enfin.
I was there when...
J'étais là quand... Le store s'est baissé, un de ces machins marrons sales qui s'enroulent. Là, en train de jeter une balle pour un petit chien blanc. Et ça s'est trouvé comme ça. J'ai levé la tête, Dieu sait pourquoi. Et voilà, ça y était. Une affaire finie, enfin. Je suis resté là quelques instants encore, assis sur le banc, avec la balle dans la main et le chien qui jappait après, et la mendie de la patte. Instant. Ces instants à elle. Mes instants à moi. Les instants du chien. À la fin, je la lui ai donnée et il l'a prise dans sa gueule. Doucement, doucement.
small, old, black, hard,
une petite balle de caoutchouc, vieille, noire, pleine, dure.
I shall feel it in my hand until my dying day.
Je la sentirai dans ma main jusqu'au jour de ma mort.
I might have kept it.
J'aurais pu la garder.
But I gave it to the dog.
Mais je l'ai donné au chien.
Ah, well.
Enfin. Spirituellement, une année, on ne peut plus noir et pauvre, jusqu'à cette mémorable nuit de mars au bout de la jetée, dans la rafale. Je n'oublierai jamais où tout m'est devenu clair. La vision, enfin. Voilà, j'imagine, ce que j'ai surtout enregistré ce soir, en prévision du jour où mon labeur sera éteint, où je n'aurai peut-être plus aucun souvenir, ni bon ni mauvais, du miracle qui... du feu qui l'avait embrasé. Ce que soudain j'ai vu alors, c'était que la croyance qui avait guidé toute ma vie, à savoir... grands rochers de granit et l'écume qui jaillissait dans la lumière du phare et l'anémomètre qui tourbillonnait comme une hélice, clair pour moi enfin que l'obscurité que je m'étais toujours acharné à refouler est en réalité mon meilleur. Indestructible association jusqu'au dernier soupir de la tempête et de la nuit, avec la lumière de l'entendement et le feu. Mon visage dans ses seins et ma main sur elle. Nous restions là, couchés sans remuer, mais sous nous, tout remuait et nous remuait doucement, de haut en bas et d'un côté à l'autre. Passé minuit, jamais entendu pareil silence. La terre pourrait être inhabitée. Ici, je termine. Le haut du lac, avec la barque, nager près de la rive, puis pousser la barque au large et laisser aller à la dérive. Elle était couchée sur les planches du fond, les mains sous la tête et les yeux fermés. Soleil flamboyant, un brin de brise, l'eau un peu clapoteuse comme je l'aime. J'ai remarqué une égratignure sur sa cuisse et lui ai demandé comment elle se l'était faite. En cueillant des groseilles à maquereaux, m'a-t-elle répondu. J'ai dit encore que ça me semblait sans espoir et pas la peine de continuer. Elle a fait oui sans ouvrir les yeux. Je lui ai demandé de me regarder et après quelques instants, après quelques instants, elle l'a fait. Mais les yeux comme des fentes à cause du soleil. Je me suis penché sur elle pour qu'ils soient dans l'ombre et ils se sont ouverts. M'ont laissé entrer. Nous dérivions parmi les roseaux Et la barque s'est coincée.
Away they went down, sighing before the stern.
Comme ils se pliaient avec un soupir devant la proue.
I lay down across her,
je me suis coulé sur elle,
my face in her breast,
mon visage dans ses seins
and my hand on her.
Et ma main sur elle.
We lay there without moving,
nous restions là couchés sans remuer,
under us,
mais
all moved,
sous nous,
and moved
tout remuait et nous remuait
gently,
doucement,
and down,
de haut en bas
side to side.
Et d'un côté à l'autre.
Past midnight.
Passé minuit.
Never known.
Jamais entendu.
Krapp débranche l'appareil. Rêvasse. Finalement, il farfouille dans ses poches, rencontre la banane, la sort, l'examine de tout près, la remet, farfouille de nouveau, sort l'enveloppe, farfouille de nouveau, remet l'enveloppe. Regarde sa montre, se lève et s'en va au fond de la Seine. Bruit d'une bouteille contre un verre. De nouveau, la bouteille contre le verre. Il revient d'un pas mal assuré. Va vers le devant de la table. Sort ses clés. Les élève à hauteur des yeux. Choisit une clé. Fait jouer la serrure du premier tiroir. Regarde dedans. Il promène la main. En sort une bobine, l'examine de tout près, referme le tiroir à clé, remet les clés dans sa poche, va s'asseoir, enlève la bobine de l'appareil, la pose sur le dictionnaire, place la bobine vierge sur l'appareil, sort l'enveloppe de sa poche, en consulte l'envers, la pose sur la table, rêvasse.
Fanny.
Branche l'appareil. Commence à enregistrer.
Just been listening.
Viens d'écouter
to that stupid bastard
ce pauvre petit crétin
I took myself for
pour qui je me prenais
30 years ago.
Il y a 30 ans.
Hard to believe.
Difficile de croire
as bad as that.
Que j'ai jamais été con à ce point-là.
The voice.
Cette voix.
Jesus.
Jésus.
Thank God that's all over and done with anyway.
Ça au moins c'est fini, Dieu merci.
The eyes she had.
Les yeux qu'elle avait.
Everything there.
Tout était là.
Everything on this old muck ball.
Toute cette vieille charogne de planète. éteinte, toute la lumière et l'obscurité, et la famine, et l'abondance des siècles.
Yes!
Oui.
Let that go.
Laisse filer ça.
Take his mind off his homework, Jesus.
J'aurais pu le distraire de ses chères études, Jésus.
Ah, well.
Enfin.
Maybe he was right.
Peut-être qu'il avait raison.
Maybe he was right.
Peut-être qu'il avait raison.
Il froisse et jette l'enveloppe.
Nothing to say.
Rien à dire.
Not a squeak.
Pas quick.
What's a year now?
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, une année?
Sour cud.
Merde remâchée.
Giant stool.
Et bouchon au cul.
Revel in the word spool.
Déguster le mot bobine. Bobine.
Happiest moment of the past half million.
L'instant le plus heureux des derniers 500 000.
17 copies sold.
17 exemplaires de vendus.
Of which 11 at trade price.
Dont 11 au prix de gros.
To free circulating libraries.
À des bibliothèques municipales.
Beyond the seas.
Au-delà les mers.
Getting known.
En passe d'être quelqu'un.
Crawled out once or twice.
Je suis traîné dehors une fois ou deux.
Before the summer was cold.
Avant que l'été se glace,
sat shivering in the park,
resté assis à grelotter dans le parc,
drowned in dreams and burning to be gone,
noyé dans les rêves et brûlant d'en finir.
Not a soul.
Personne.
Last fancies.
Dernière chimère.
Keep them under.
À refouler.
Scalded the eyes out of me.
Me suis crevé les yeux.
Reading Effie again.
À lire Effie encore.
A page a day.
Une page
with
par jour.
Tears again.
Avec des larmes encore.
Effie.
Effie.
Would have been happy with her.
Aurait pu être heureux avec elle.
Up there on the Baltic.
Là-haut, sur la Baltique.
And the pines.
Et les pins.
And the dunes.
Et les dunes.
Could I?
Non.
And she?
Et elle.
Fanny came in a couple of times.
Fanny est venue une ou deux fois.
Bony old ghost of a whore.
Vieille ombre de putain squelettique.
I couldn't do much.
Pas pu faire grand chose.
But I suppose better than finger and thumb.
Sans doute mieux qu'un coup de pied dans l'entrejambe.
The last time wasn't so bad.
La dernière fois, c'était pas si mal. Comment tu fais ton compte à ton âge?
She said.
M'a-t-elle dit.
I told her.
Je lui ai répondu.
I've been saving up
que je m'étais réservé pour elle
my life.
Toute ma vie.
I went to Vespers.
Était aux Vêpres une fois.
Like when I was in short trousers.
Comme lorsque j'étais en culotte courte.
Dozed away.
Me suis endormi.
And fell off the pew.
Et suis tombé du banc.
Sometimes wondered.
Me suis demandé quelquefois dans la nuit si un dernier effort ne serait peut-être
finish your booze now, get to your bed.
Vite ta bouteille et fous-toi au pieu. Reprends ces conneries demain ou restes-en là. Restes-en là. Installe-toi là.
Propped up in the dark,
dans le noir,
and wander,
adossé aux oreillers et vagabonde.
Be again in the dingle on a Christmas Eve,
sois de nouveau dans le vallon une veille de Noël, accueillir le houx, celui à baies rouges. Sois de nouveau sur le Croghan un dimanche matin, dans la brume, avec la chienne. Arrête-toi
and listen to the bells,
et écoute les cloches
and so on.
Et ainsi de suite.
Be again.
Sois de nouveau.
Be again.
Sois de nouveau.
All that old misery.
Toute cette vieille misère.
Once wasn't enough for you.
Une fois ne t'a pas suffi.
Lie down across her.
Coule-toi sur elle.
Il se penche brusquement sur l'appareil, le débranche, arrache la bande, la jette au loin. Place l'autre bande sur l'appareil. La fait avancer jusqu'au passage qu'il cherche. Rebranche l'appareil, écoute en regardant fixement devant lui.
Gooseberries, she said.
Groseille à maquereau, m'a-t-elle répondu.
I said again, I thought it was hopeless.
Je dis encore que ça me semblait sans espoir et pas la peine de continuer.
Without opening her eyes.
Elle a fait oui sans ouvrir les yeux.
I asked her to look at me.
Je lui ai demandé de me regarder et après quelques instants,
after a few moments, she did.
Après quelques instants, elle l'a fait.
But the eyes,
mais les yeux,
slits,
comme des fentes à cause du soleil.
I bent over her.
Je me suis penché sur elle pour qu'ils soient dans l'ombre. Ils se sont ouverts, m'ont laissé entrer. Nous dérivions parmi les roseaux et la barque s'est coincée. Comme ils se pliaient avec un soupir devant la proue, je me suis coulé sur elle, mon visage dans ses seins et ma main sur elle.
We lay there without moving.
Nous restions là, couchés, sans remuer.
But under us,
mais sous
all
nous,
moved,
tout remué,
moved us,
et nous remuer,
gently,
doucement,
up and down,
de haut en bas,
from side to side.
Et d'un côté à l'autre.
Past midnight,
passé minuit,
never knew such silence.
Jamais entendu pareil silence.
The earth might be uninhabited.
La terre pourrait être inhabitée.
Here I end this reel.
Ici, je termine cette bande.
Box 3.
Boîte 3, bobine 5.
Perhaps my best years are gone.
Peut-être que mes meilleures années sont passées.
When there was still a chance of happiness.
Quand il y avait encore une chance de bonheur.
But I wouldn't want them back.
Mais je n'en voudrais plus.
Not with the fire in me now.
Plus maintenant que j'ai ce feu en moi.
No, I wouldn't want them back.
Non, je n'en voudrais plus.
Crap demeure immobile, regardant dans le vide devant lui.
Samuel Beckett, Crabbe's Last Tape, La Dernière Bande, avec Rick Clocher.
Past midnight. Never knew such silence. The earth might be uninhabited. The end is in the beginning, and yet you go on.
Jack McGowan.
Ham, fin de partie.
Le souffle qu'on retient, et puis... Puis parler vite des mots, comme l'enfant solitaire qui se met en plusieurs, deux, trois, pour être ensemble et parler ensemble dans la nuit. Instant sur instant, plouf, plouf, comme les grains de mil de ce vieux grec. Et toute la vie, on attend que ça vous fasse une vie. Ah, y être.
Malone meurt.
I am content, necessarily. But not to the point of clapping my hands. I am satisfied. There, I am repaid.
Je suis satisfait. Voilà.
I need nothing more.
Je suis fait. On me rembourse.
Let me say,
je n'ai plus besoin de rien. Laissez-moi dire tout d'abord que je ne pardonne à personne. Je souhaite à tous une vie atroce. Et ensuite les flammes et les glaces des enfers, et dans les exécrables générations à venir, une mémoire honorée. Assez pour ce soir.
l'innommable.
I can't go on.
What have I said? I can't go on. You must go on. I'll go on. You must say words, as long as there are any. Until they find me, until they see me. Strange pain, strange sin. You must go on. Perhaps it's done already. Perhaps they have set me already. Perhaps they have carried me to the threshold of my story. Before the door that opens on my story, that would surprise me. If it opens, it'll be I. It'll be the silence. Where I am, I don't know. I'll never know. In the silence, you don't know. You must go on. I can't go on. I'll go on.
Samuel Beckett, Le Dépeupleur, avec David Warrillo.
Ces jours où des corps vont cherchant chacun son dépeupleur, assez vaste pour permettre de chercher en vain, assez restreint pour que toute fuite soit vaine. C'est l'intérieur d'un cylindre surbaissé, ayant 50 mètres de pourtour et 16 de haut pour l'harmonie. Lumière. Sa faiblesse. Son jaune. Son omniprésence, comme si les quelques 80 000 centimètres carrés de surface totale émettaient chacun sa lueur. Le halètement qui l'agite, il s'arrête de loin en loin, tel un souffle sur sa fin. Tous se figent alors. Leur séjour va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence de cette lumière pour l'œil qui cherche, conséquence pour l'œil qui, ne cherchant plus, fixe le sol ou se lève vers le lointain plafond où il ne peut y avoir personne. Température. Une respiration plus lente la fait osciller entre chaud et froid. Elle passe de l'un à l'autre extrême en 4 secondes environ. Elle a des moments de calme, plus ou moins chaud ou froid. Ils coïncident avec ceux où la lumière se calme. Tous se fichent alors. Tout va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence pour les peaux de ce climat, elles se parcheminent. Les corps se frottent avec un bruit de feuilles sèches. Les muqueuses elles-mêmes s'en ressentent. Un baiser rend un son indescriptible. Ceux qui se mêlent encore de copuler n'y arrivent pas, mais ils ne veulent pas l'admettre. Sol et mur sont en caoutchouc dur ou similaire. Heurtés avec violence du pied ou du poing ou de la tête, ils sonnent à peine. C'est dire le silence des pas. Les seuls bruits dignes du nom proviennent du choc des corps entre eux ou d'un seul avec soi-même, comme lorsque, soudain, à toute volée, il se frappe la poitrine. Ainsi subsistent chair et os. Échelle. Ce sont les seuls objets. Très variés quant à la taille, elles sont simples sans exception. Les plus petites n'ont pas moins de 6 mètres. Plusieurs sont à coulisses. Elles s'appuient contre le mur de façon peu harmonieuse. Debout, au sommet de la plus grande, les plus grands peuvent toucher le plafond du bout des doigts. Sa composition est donc connue à l'égal de celle du sol et du mur. Heurté avec violence d'un échelon, il sonne à peine. Ces échelles sont très demandées. Au pied de chacune, une petite file d'attente, toujours ou presque. Il faut cependant du courage pour s'en servir, car il leur manque à toutes la moitié des échelons, et cela de façon peu harmonieuse. S'il n'en manquait qu'un sur deux, le mal ne serait pas grand, mais l'absence de 3 à la file oblige à des acrobaties. N'empêche que ces échelles sont très demandées et ne risquent pas d'être réduites à l'état de simples montants reliés uniquement à la base et au sommet, car le besoin de grimper est trop répandu. Ne plus l'éprouver est une délivrance rare. Les échelons manquants sont entre les mains d'un petit nombre de privilégiés. Ils s'en servent essentiellement pour l'agression et pour se défendre. Les tentatives solitaires pour s'en défoncer le crâne n'aboutissent au mieux qu'à de brèves pertes de connaissance. Le but des échelles est de porter les chercheurs aux niches. Ceux qui n'y vont plus s'en servent simplement pour quitter le sol. Il est d'usage de ne pas y monter à 2. Le fugitif, assez heureux pour en trouver une de libre, peut s'y réfugier en attendant que les colères tombent. Niches ou alvéoles. Ce sont des cavités creusé à même le mur à partir d'une ceinture imaginaire courant à mi-hauteur. Elle n'en intéresse donc que la moitié supérieure. Une bouche, plus ou moins large, donne rapidement accès à un coffre d'ampleur variable, mais toujours suffisante pour que par le jeu normal des articulations, le corps puisse y pénétrer et de même, tant bien que mal, s'y étendre. Elles sont disposées en quinconces irréguliers savamment désaxés et en 7 mètres de côté en moyenne. Harmonie que seul peut goûter, qui, par longue fréquentation, connaît à fond l'ensemble des niches au point d'en posséder une image mentale parfaite. Oh, il est douteux qu'un tel existe. Car chaque grimpeur a ses niches de prédilection et évite autant que possible de monter dans les autres. Certaines sont reliées entre elles par des tunnels pratiqués dans l'épaisseur du mur et pouvant atteindre jusqu'à 50 mètres. Mais la plupart n'ont pas d'autre sortie que l'entrée. C'est comme si, à un moment donné, le découragement s'était fait sentir. À noter à l'appui de cette vue de l'esprit l'existence d'un long tunnel abandonné en cul-de-sac. Malheur au corps qui s'y aventure à la légère et doit, au bout d'un long effort, rebrousser chemin comme il peut en rampant à reculons. Ce drame, à vrai dire, n'est pas l'apanage du tunnel inachevé. Il n'y a qu'à considérer ce qui fatalement va se produire lorsque, dans un tunnel normal par les bouts opposés, deux corps s'engagent en même temps. Niches et tunnels sont soumis au même éclairage et au même climat que l'ensemble du séjour. Voilà un premier aperçu du séjour. L'emploi des échelles est régi par des conventions d'origine obscure qui, dans leur précision et par la soumission qu'elles exigent des grimpeurs, ressemblent à des lois. Tout repose sur l'interdiction de monter à plusieurs à la même échelle. Tant que celui en train de s'en servir n'aura pas regagné le sol, elle reste interdite au suivant. Inutile de vouloir imaginer la confusion qui résulterait de l'absence d'une telle règle ou de sa non-observance. Mais, faite pour la commodité de tous, il n'est pas question qu'elle joue sans restriction, ni qu'elle permette au grimpeur indélicat d'immobiliser son échelle au-delà de ce qui est raisonnable. Car, faute d'un frein quelconque, celui qui se serait mis dans la fantaisie de s'installer à demeure dans une niche ou dans un tunnel laisserait derrière lui une échelle inutilisable à tout jamais. Et si d'autres suivaient son exemple, comme fatalement ils le feraient, on aboutirait au spectacle de 185 corps grimpeurs, moi les vaincus, voués au sol pour toujours. Sans parler de ce qu'aurait d'intolérable la présence d'accessoires ne servant à rien. Il est donc convenu que, passé un certain délai, difficile à chiffrer, mais que chacun sait mesurer à une seconde près, l'échelle redevienne libre, c'est-à-dire à la disposition, dans les mêmes conditions, de celui dont c'est le tour de monter, facilement reconnaissable à sa position en tête de queue. Et tant pis pour l'abuseur. La situation de ce dernier ayant perdu son échelle est délicate en effet, et il semble exclu a priori qu'il puisse jamais revenir au sol. Il y arrive, heureusement, tôt ou tard, grâce à une autre disposition selon laquelle, en toutes circonstances, la descente a priorité sur la montée. Il n'a donc qu'à guetter à la bouche de sa niche qu'une échelle vienne se présenter pour l'emprunter en toute quiétude et avec l'assurance que celui en bas sur le point, voire en train de monter, lui cédera le pas. Il est évident que ses chances de redescente rapide seront augmentées, quoique loin d'être doublées, si, à la faveur d'un tunnel, il dispose de deux niches où guetter. Mais les échelles ne servent pas qu'à gagner les niches et tunnels, et ceux que cela n'intéresse plus, ne serait-ce que temporairement, s'en servent simplement pour quitter le sol. Ils montent et s'arrêtent à la hauteur de leur choix pour s'installer le plus souvent debout face au mur. À cette famille de grimpeurs aussi, il arrive de dépasser les délais prescrits. Il est prévu dans ce cas que celui à qui revient l'échelle monte jusqu'au fautif et d'un coup de plusieurs dans le dos le rappelle à la réalité. Il n'en faut pas plus pour que celui-ci s'empresse de descendre, précédé de son successeur qui n'a plus ensuite qu'à prendre possession de l'échelle dans les conditions habituelles. Il y va du principe fondamental qui interdit de monter à plusieurs et dont la violation répétée transformerait rapidement le cylindre en pandémonium, tandis que le retour au sol retardé ne nuit finalement qu'au retardataire. Voilà un premier aperçu du code des grimpeurs. Un corps par mètre carré de surface utile, soit 200 corps chiffreront. Corps des deux sexes et de tous les âges, depuis la vieillesse jusqu'au bas âge. Bébés à la mamelle qui, n'ayant plus à téter, cherchent des yeux depuis le giron ou accroupent-on par terre dans des poses précoces. D'autres, un peu plus avancés, circulent à quatre pattes et cherchent parmi les jambes. Détail pittoresque. Une femme aux cheveux blancs, encore jeune, à en juger par les cuisses, appuyée contre le mur, les yeux clos dans l'abandon, serrant machinalement contre son sein un bambin qui s'arc-boute pour mieux tourner la tête et voir derrière lui. Mais de tels tout-petits sont très peu nombreux. Nul ne regarde en soi où il ne peut y avoir personne. Yeux baissés au clos signifient abandon et n'appartiennent qu'aux vaincus. Très exactement comptables sur les doigts d'une main, ceux-ci ne sont pas forcément immobiles. Ils peuvent errer dans la foule et ne rien voir. À l'œil de chair, rien ne les distingue des corps qui s'acharnent encore. Ceux-ci les reconnaissent et les laissent passer. Ils peuvent attendre au pied des échelles et, quand vient leur tour, monter dans les niches ou tout simplement quitter le sol. Ils peuvent ramper à tâtons dans les tunnels en quête de rien, mais normalement, l'abandon les fige, aussi bien dans l'espace que dans l'attitude. C'est celle-ci, le plus souvent profondément voûtée, qu'ils soient debout, qu'ils soient assis, qui permet de les distinguer des chercheurs sédentaires, dévorant du regard chaque corps qui passe, sans que pour autant la tête bouge. Debout ou assis, ils sont collés au mur, sauf un qui, saisi en pleine arène, s'y est figé sur pied au milieu des agités. Ceux-ci le reconnaissent et évitent de le déranger. Ils sont sujets toujours à de brusques retours de fièvre oculaire, tout comme ceux qui, ayant renoncé à l'échelle, subitement s'y remettent, tant il est vrai que dans le cylindre, le peu possible, là où il n'est pas, n'est seulement plus, et dans le moindre, moins le rien tout entier, si cette notion est maintenue. Et les yeux soudain de se remettre à chercher, aussi affamés que l'impensable premier jour, jusqu'à ce que, sans raison apparente, brusquement, ils se referment ou que la tête tombe. C'est comme si un grand tas de sable abrité du vent en enlevait trois grains un an sur deux et l'autre en ajoutait deux. Si cette notion est maintenue, si les vaincus ont encore du chemin à faire, que dire des autres, et quel nom leur donner, sinon le beau nom de chercheur?
Ce qui frappe d'abord dans cette pénombre est la sensation de jaune qu'elle donne, pour ne pas dire de soufre à cause des associations. Ensuite, le fait qu'elle vibre de façon régulière et continue à une vitesse qui, pour être élevée, ne dépasse jamais celle qui rendrait la pulsation imperceptible. Et enfin, beaucoup plus tard que de loin en loin et pour très peu de temps.
celle-ci se calme. Ces rares et brèves relâches sont d'un effet dramatique inexprimable pour en dire le moins. Les agités en restent cloués sur place, dans des postures souvent extravagantes, et l'immobilité décuplée des vaincus et sédentaires fait paraître dérisoire celle qu'ils affichent d'habitude. Les poings en voie de cogner sous l'effet de la colère ou du découragement se glacent à un point quelconque de l'arc pour n'achever le coup ou série de coups qu'une fois l'alarme passée. Similairement, ceux surpris en train de grimper ou de porter l'échelle ou de faire l'infaisable amour ou tapis dans les niches ou rampant dans les tunnels. Mais au bout d'une dizaine de secondes, le frémissement reprend et au même instant tout rentre dans l'ordre. Ceux qui erraient recommencent à errer et les immobiles se détendent. Les accouplés reprennent le collier et les poings se remettent en marche. La rumeur, qui s'était tue comme coupée au commutateur, remplit de nouveau le cylindre. Parmi tous les composants dont elle est faite, l'oreille finit par distinguer un faible grésillement d'insectes qui est celui de la lumière elle-même et le seul qui ne varie pas. Entre les extrêmes qui contiennent la vibration, l'écart n'est guère plus que de deux ou trois bougies, ce qui fait qu'à la sensation de jaune s'ajoute celle plus faible du rouge. Bref, un éclairage qui non seulement obscurcit, mais brouille par-dessus le marché. Rien n'empêche d'affirmer que l'œil finit par s'habituer à ces conditions et par s'y adapter, sinon que c'est plutôt le contraire qui se produit, sous forme d'une lente dégradation de la vue, ruinée à la longue par ce rougeoiement fulgineux et vacillant, et par l'effort incessant toujours déçu, sans parler de la détresse morale se répercutant sur l'organe. Et s'il était possible de suivre de près, pendant assez longtemps, deux yeux donnés, bleus, de préférence, en tant que plus périssables, on les verrait s'écarquiller toujours davantage et s'injecter de sang de plus en plus et les prunelles se dilater progressivement jusqu'à manger la cornée tout entière. Tout cela, évidemment, dans un mouvement si lent et si peu sensible que les intéressés eux-mêmes ne s'en aperçoivent pas, si cette notion est maintenue. Et pour l'être pensant, venu se pencher froidement sur toutes ces données et évidences, il serait vraiment difficile, au bout de son analyse, de ne pas estimer à tort qu'au lieu d'employer le terme « vaincu », qui a, en effet, un petit côté pathétique et désagréable, on ferait mieux de parler d'aveugle tout court. L'effet de ce climat sur l'âme n'est pas à sous-estimer, mais elle en souffre certainement moins que la peau, dont tous les systèmes de défense, depuis la sueur jusqu'à la chair de poule, se trouvent à chaque instant contrariés. Elle continue néanmoins de se défendre, mal, certes, mais honorablement au regard de l'œil, qu'avec la meilleure volonté du monde, il est difficile de ne pas vouer au terme de son effort à la cécité effective. Sol et mur sont vierges de toute marque pouvant servir de point de repère. Le grimpeur qui emporte son échelle pour la dresser à un autre endroit le fait un peu au jugé. Ceci dit, il existe un or sous forme d'un vaincu, ou mieux d'une vaincue, ou mieux encore de la vaincue. Elle est assise contre le mur, les jambes relevées. Elle a la tête entre les genoux et les bras autour des jambes. Les cheveux, ternis par l'éclairage, lui cachent le visage et tout le devant du corps, y compris l'entrejambe. Elle est le nord. Elle, plutôt qu'un autre vaincu quelconque, en raison de sa fixité plus grande. À qui, exceptionnellement, veut faire le point, elle peut servir. Telle niche, pour le grimpeur, peu enclin aux acrobaties évitables, peut se trouver à tant de pas ou de mètres, à l'est ou à l'ouest de la vaincue, sans, naturellement, qu'il la nomme ainsi ou autrement, même en pensée. Il est défendu, évidemment, de refuser le visage ou toute autre partie du corps au chercheur qui en fait la demande et qui peut, sans crainte de résistance, écarter les mains des chairs qu'elle cache et soulever les paupières pour examiner l'œil. C'est ainsi que les cheveux de la vaincue ont été maintes fois relevés et écartés, et la tête soulevé et mis à nu le visage et tout le devant du corps jusqu'à l'entrejambe. L'inspection terminée, il est d'usage de tout remettre soigneusement en place autant que faire se peut. Ainsi de suite à l'infini, jusqu'à ce que vers l'impensable fin, si cette notion est maintenue, seul un dernier cherche encore par faible à coup. Le voilà en effet, ce dernier, si c'est un homme, qui lentement se redresse et au bout d'un certain temps rouvre les yeux brûlés et se fraye un chemin jusqu'à cette première vaincue, si souvent prise comme repère. À genoux, il écarte la lourde chevelure et soulève la tête qui n'offre pas de résistance. Dévoré, le visage mis ainsi à nu, les yeux enfin, par les pouces sollicités, s'ouvrent sans façon. Dans ces calmes déserts, il promène les siens jusqu'à ce que les premiers, ces derniers, se ferment, et que la tête, lâchée, retourne à sa vieille place. Lui-même à son tour, au bout d'un temps impossible à chiffrer, trouve enfin sa place et sa pose, sur quoi le noir se fait, en même temps que la température se fixe dans le voisinage de zéro. C'était, du même coup, le grésillement d'insectes mentionné plus haut, d'où, subitement, un silence plus fort que tous ces faibles souffles réunis. Voilà, en gros, le dernier état du cylindre et de ce petit peuple de chercheurs dont un premier, si ce fut un homme, dans un passé impensable, baissa enfin une première fois la tête, si cette notion est maintenue.
ACR, Atelier de création radiophonique. Samuel Beckett, Deux langues pour des voix. Par René Farabet. From the beginning to the end. Extrait. Avec Jack McGowan. Mise en scène Samuel Beckett, 1970. Avec Claude Pieplu. Crab's Last Tape, La Dernière Bande, avec Rick Lequet, Michael Lonsdale, 1981. Le Dépeupleur, avec David Warilo, 1981. Groupe de réalisation, Philippe Bredin, Michel Créis, Annie Delers, Olivier Dupré, Bernard Laniel, Viviane van der Broek. Samuel Beckett, Deux langues pour des voix.
C'était l'atelier de création radiophonique, une émission diffusée la première fois le 11 février 1980.